Oui. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait, c'est que c'est un peu plein que derrière on ne comprenait pas ce que vous disiez devant. Alors, parler à haute et intelligible voix, pour que tous puissent comprendre.
Donc, un des thèmes qui était touché particulièrement, c'était le passage d'ailleurs dans le correctif qui disait que le voile se lève seulement en visite. Et qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de gens qui ont pu voir à travers une prophétie un accomplissement qui devait être immédiat, mais finalement c'était comme des beaux, quelque chose qui se préparait. Un peu comme des montagnes qu'on voit au loin, puis si on approche, une vallée, et qu'il y a d'autres montagnes qui moi, le passage que j'ai dit, qui m'avait touché, c'était que toutes choses finiront par la force du peuple saint sera entièrement réglée. J'ai entendu, mais je ne compris pas ce qu'il avait. C'est là-dessus qui était aujourd'hui, quand on ne comprend pas, on ne s'en fout pas. C'est plutôt quand on ne comprend pas, c'est un moyen que j'utilise pour nous faire avancer plus loin. Dieu doit briser cette force pour pouvoir accomplir son action. Voilà. C'est bien résumé, mais c'est assez grand, c'est ça.
C'est bien, c'est un verset qui a amené bien des juifs à la conversion quand ils se tournent vers le Seigneur. Alors le voile qui recouvre souvent les Écritures est ôté. Et l'image que tu as donnée, nous l'avons expliquée dans la précédente retraite. Donc ces montagnes, n'est-ce pas, qu'on voit, on croit qu'on arrive vers la montagne, puis on voit tout à coup une vallée, et il y a une montagne plus loin, n'est-ce pas? Et c'est cela qu'on trouve dans la prophétie, quand on a étudié la parole prophétique ou une lampe qui brille dans un lieu obscur. Ça se trouve sur les cassettes de la précédente retraite. Mais c'est bien que tu l'aies souligné aujourd'hui. Et dans le groupe 2.
On a certainement répondu aux questions, puisque les réponses étaient évidentes.
Oui, parce que après des questions compliquées, il faut donner des questions évidentes.
Alors, on a décidé de partager facilement ce dernier matin. Qui nous a frappé, il y a beaucoup de choses que les uns et les autres avaient fait. Quelqu'un a dit que nous, cette fois, bien, nous allons te prendre gratuitement là où nous avions. C'est une chose incroyable qu'à la fin de ce livre, de nouveau, gratuit et gratuit. D'autres ont dit qu'on soulignait le mot bientôt, qui est dit trois fois dans ce dernier chapitre de l'Apocalypse, bientôt. C'est très réconfortant de penser que ce sera bientôt le jour où le Seigneur reviendra. Je pense que me rappeler toutes les dernières choses que les. Mon groupe a dit, et quelqu'un a souligné dans Daniel 12 que les sages brilleront comme la splendeur de l'étendue, les dieux sont enseignés à l'exercice de la magnitude, comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc, ça nous incite à parler du Seigneur et d'être là toujours pour lui. Et ça me fait penser à Malachie 3, où il y a aussi un verset où l'Éternel a écrit même un livre, pas seulement de ceux qui parlaient de lui, mais ceux qui pensaient à lui. Et que le Dieu éternel, le Père, il est tellement sensible à son sens, à son fils, que c'est ça qui le touche de presque les tous, on n'arrive pas à comprendre. Et c'est à peu près les points qu'on a parlé. Et maintenant, c'est le temps où il faut cisseler les paroles avant Daniel de cisseler les paroles. Et ça veut dire que l'écriture est ouverte et on peut la comprendre et on sera arrivé.
Merci. Le groupe 3. Oui.
La vue de l'Apocalypse, que la révélation était pour les serviteurs du Seigneur et ceux qui le servent vraiment, c'est-à-dire ceux qui ne servent pas soit une dénomination, soit une religion, mais qui sont vraiment les serviteurs du Seigneur, parce que l'anneau nous a rachetés pour être les serviteurs du Dieu très haut, et que c'est en lui, par lui, à cause de lui que nous sommes ce que nous sommes, un peuple racheté. Et que c'est, sa parole doit être notre nourriture, notre lumière, notre conduite. On vit de cette parole qui nous a sauvés. Et dans Isaïe, on voit que le grand enjeu, c'est de suivre des préceptes humains ou des traditions d'hommes, qui fait que notre vie devient très étroite, très petite, quelques pages, quelques versets seulement, et qu'on néglige tout le reste, parce qu'on suit des choses habituelles. On dit au prochain le mardi, le mercredi, le dimanche, et puis ensuite c'est peut-être oublié. Alors tout ça c'est très facile, mais que cette parole est une nourriture de chaque jour, et ne jamais oublier que pour qui nous sommes, pour qui nous vivons, pour celui qui est la gloire de Dieu le Père, c'est-à-dire Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, il efface le péché du monde.
Merci. Amen. Le groupe 4.
On s'en est tenu là, au texte suggéré, aux trois textes, mais changé d'une façon un peu plus libre, surtout à Isaïe, au chapitre 29. On se rend compte qu'on n'a plus d'excuses aujourd'hui pour dire que la parole est un livre compliqué, c'est un livre voilé. Ceux pour qui la révélation est voilée, c'est parce que, comme on dit ici, notre cœur est éloigné du Seigneur. Et ceux qui, si on veut avoir une révélation, il faut dans un premier temps retourner au Seigneur. Et on voit ça aujourd'hui dans la société. Parce que la parole de Dieu, c'est une parole compliquée, c'est un livre révélateur, c'est du seul accès, du seul approche. Mais c'est pas le livre qui est du seul approche, c'est nos cœurs qui sont retournés vers le Seigneur. Donc, et on a mis ça en relief un peu, il me semble, mais là, peut-être. J'ai remarqué un verset qui avait écrit dans Daniel 12, où on dit, au verset 4, la dernière partie, plusieurs alors le diront et la connaissance augmentera. Alors aujourd'hui, moi je faisais la réflexion, en disant moi-même que la connaissance aujourd'hui, elle est rendue grande dans un monde de communication, les sciences sont très évoluées. Je pense que pour le bien, la connaissance humaine, on est très très avancé, mais ici on parle de la connaissance de la parole. Et la connaissance va augmenter en même temps qu'on lit cette parole. C'est là une relation avec Isaïe 29. Dans un premier temps, il faut tourner nos cœurs vers le Seigneur pour qu'on puisse justement être. Qu'on se fasse enlever ce voile qui nous empêche justement de comprendre la lecture de la parole. Et c'est là que la connaissance va augmenter. Non pas en accumulant une vision, mais en accumulant une connaissance académique, théorique utile pour la vie sur Terre, mais la connaissance spirituelle va augmenter au fur et à mesure qu'on va prendre contact avec la parole de Dieu. Et c'est là la révélation, dans le fond, c'est là que le Seigneur va se révéler pendant qu'on le cherche. Alors c'est un peu ça qui a été le fond de la discussion.
Amen, merci. Bien. Le groupe 5.
Thank you. Mais ce qui m'a frappé dans les ateliers, vraiment, on m'a vraiment bien partagé sur les questions et les bonnes échanges, et je suis encouragé, mais là, je me sens vieux de la compagnie. Mais je suis intelligent, mais je suis encouragé de voir comment les jeunes connaissent la vie des questions, comment ils le partagent. Très intelligent. Naturellement, s'il y en a du groupe qui veulent s'associer dans le groupe particulier, ils peuvent le faire, mais c'était très enrichi. Moi, j'ai été arrivé.
Ah, c'est magnifique! Les sœurs aussi m'ont dit à plusieurs reprises, pas seulement une, mais plusieurs, qu'elles sont impressionnées qu'il y ait dans notre groupe tant de jeunes. Alors je voudrais vous encourager, vous les jeunes, parce que vous avez eu le témoignage de Jésus vis-à-vis des sœurs qui sont dans cette maison. Alors on loue le Seigneur pour votre présence et nous espérons que vous supportez nos pauvres cheveux blancs. Tu vois, André, on peut quand même continuer. Bien, alors, groupe 6.
Il y a beaucoup de groupes, mais il y a pas tellement de réponses que vous avez. On a relu un petit peu le passé ensemble, et on a trouvé que c'était assez clair, que même la parole, on peut la comprendre, qu'on n'aura pas d'excuses de cette problématique. Que personne ne l'estime devant lui, parce qu'on a vraiment le livre ouvert. Moi, ça m'a parlé personnellement dans la lecture de voir le précédent d'Ariel, c'est pour ça que ça veut dire, mais des fois, le texte peut nous parler, même si c'est pas les choses exactement comme notre imagination parlait un peu. Que quand il dit que le livre était écrit, qu'on demandait à la personne de lire, puis il disait,
je ne sais pas lire.
Autant aussi que lui, ça le collier, il disait, le livre, je ne sais pas. Je me disais que des fois, on fait comme ça aussi. Quelqu'un peut nous demander de dire quelque chose, puis on fait comme si on ne savait pas lire. On ne sait jamais rien, on ne sait jamais. On ne sait pas s'exprimer, on ne sait pas comment dire les choses que le Seigneur fait pour nous. Moi, ça m'a beaucoup parlé en ça. Alors, on a partagé ça. Il y avait des outils qui faisaient ça. Alors, il faut lire, puis je me disais aussi, peut-être, c'est bon. Et si quelqu'un nous demande quelque chose, on dit que peut-être que c'est bien à dire, mais le livre,
c'est bien. Oui.
On a toujours le livre. Alors, j'ai trouvé qu'on était un groupe assez efficient aussi. Les gens
partagent
des choses en
réfléchissant. Merci. Et vraiment, de ce que le cœur est rempli, la bouche parle. Hein? Mais de quoi le cœur est-il rempli? Alors, s'il est rempli, non pas seulement de connaissances, mais de quelqu'un, mais pas qui donne la connaissance, eh bien, on parle de cet amour. Quand on est amoureux, on en parle. Alors, merci, Janine. Et le groupe 7.
J'ai beaucoup aimé un partage qui a été fait dans Ésaïe 29. Que la personne nous disait que c'était pas une chose, ça ne devait pas être superficiel, qu'on comprend les Écritures, mais que ça devait venir du cœur vraiment. C'était le Saint-Esprit qui nous faisait comprendre. Ensuite, il y en a un autre qui a partagé dans Daniel, au chapitre 12. Oui, c'est cette question-là qui lui a parlé de Dieu, qui lui a aidé à comprendre. Mais je vais seulement lire le dernier verset pour résumer un peu. Les doigts vont jusqu'à la fin, et tu te reposeras et tu te tiendras dans ton lot à la fin des jours. Il y a eu des partages très intéressants aussi, puis c'est édifiant.
Et tu te tiendras debout. Debout. Donc, ça veut dire qu'il sera ressuscité. Il sera debout. Il ne sera pas couché dans le tombeau. Puisqu'on se repose, on nous couche, et un jour il y a la résurrection. Et même si nous ne devions pas être de ceux qui seront enlevés, la génération qui ne passera pas par la mort, on sait que nous serons ressuscités et debout avec ceux qui auront été enlevé. Ce sera la grande réunion et ce sera tellement merveilleux de voir le Christ, donc la tête glorifiée, et son corps. Hein. Le Christ total, c'est pas Jésus tout seul, c'est Jésus et tous ceux qu'il a rachetés et qui ont maintenant sa nature. Groupe 8.
Peut-être qu'on a eu un groupe extraordinaire.
Oh,
on était dans la détente. Et aussi, on a eu la joie d'avoir un témoignage de M. Médéloc avec son voisin.
Mm.
C'était très enrichissant. On ne s'est pas ennuyé non plus avec Mme Cosmoir. Et on a discuté les trois questions. Les questions étaient assez faciles. On a parlé aussi de la mienne question. Si on a compris, nous devions rechercher des événements ou une personne. Et on a compris que c'était une personne qu'on avait cherché. Parce que dans tout l'ensemble de la Bible, cette personne, peut-être qu'il est en évidence. C'est de cette personne-là qu'on parle de son lancement. On s'est dit dans l'Apocalypse, la personne qui est venue.
Merci, Yvan. Parce que vous voyez, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1er, il est dit que le Seigneur nous fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses dans le Christ. Vous voyez, on a dit qu'on aurait pu parler des temps, faire des méditations sur les temps, mais il y a un temps où toutes choses, d'après le conseil éternel de Dieu, seront réunis dans le Christ. Alors, vous voyez que nous avons raison de rechercher tout ce qui concerne la personne de Christ. Toutes choses seront réunies en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Alors, ça vaut la peine. Et cette clé christologique nous ouvre les Écritures, comme cela a été rappelé, quand on se tourne vers Jésus, le voile est ôté. Et on peut se passionner aussi pour l'Ancien Testament. Ce n'est pas des histoires d'un autre peuple et d'un autre âge, comme le disait Goethe, que j'ai quelquefois cité, le poète allemand, eh bien, l'histoire d'Israël, c'est notre histoire. Et on se reconnaît dans toutes ces vies, dans leurs faiblesses. Élie était un homme aux mêmes passions que nous. C'est ça qui est tellement encourageant dans l'écriture. Tandis que quand on lit certaines biographies écrites par des hommes, on nous dit seulement tout ce qui était bien en eux, alors c'est des personnes inimitables. Tandis que quand c'est Dieu qui écrit une vie, il montre ce qu'elle a été. Il y a les beaux psaumes de David, mais il y a aussi la chute de David, mais aussi sa restauration quand il a confessé son péché et qu'il a eu l'esprit brisé et humilié. Et quand je pense que notre Seigneur, lui, il a perdu la face à la croix, il a baissé la tête. Quand on disait qu'il le délivre maintenant s'il tient à lui, et le Seigneur meurt après avoir dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il semble qu'il a perdu la face et il est dit que le Seigneur baissa la tête et rendit l'esprit. Mais nous, on a la nuque raide. Hein, et il est parlé de la nuque raide à travers toute la Bible. Nous, nous voulons garder la face. Même si on est démoli intérieurement. Mais... Et puis c'est un effort charnel. Puis après on s'épuise. Puis on arrive au suicide. Acceptons de perdre la face et de trouver en Jésus une vie nouvelle. Lui nous donne la vie. Et il y a encore un groupe, hein? C'est neuf?
Moi, j'ai bien été impressionné de l'amour que chacun avait pour l'Apocalypse, pour ce livre-là. Parce qu'avant, on ne voyait pas ça tellement, on ne rencontrait pas souvent les personnes qui avaient à cœur de parler de l'Apocalypse comme on le fait, de le partager. Et à travers les partages, on sentait que quelquefois ça approchait un petit peu, mais malgré ça, l'amour quand même pour la parole était plus fort et je pense que tous les frères et sœurs étaient contents de pouvoir partager ensemble malgré tout.
Ouais.
Ce qu'on aurait bien aimé avoir comme réponse, c'est la réponse à la question 1. Quel livre de l'Ancien Testament devrions-nous lire encore pour mieux comprendre le langage de l'Apocalypse? Quel livre, mis à part Daniel, Ésaïe, etc.
J'avais surtout à cœur de vous parler de Daniel. Je m'en vais y répondre ici. Et puis Jérémie, n'est-ce pas? Et puis il y aurait aussi Zacharie. Et puis l'évangile de Matthieu, Matthieu 24. Mais nous allons reprendre ça dans quelques instants. Merci de ce partage. Et dixième, Douglas.
C'est la meilleure position d'avoir un dernier parce que tout a été dit. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. C'était pour appuyer surtout la deuxième question.
C'est Jacques 1, verset 16 et 17. Hein?
Alors, notre ignorance, si on peut le garder dans ce contexte-là, c'est que nous allons rester auprès de Jésus, de sa parole. Et j'ai toujours aimé la façon que les questions sont posées, parce que des fois c'est pour provoquer évidemment une conversation, mais quel livre de l'Ancien Testament? Mais il ne s'agissait pas dans ça d'aller chercher et de choisir, de sélectionner un sur l'autre. On a senti la suite, ça a pris parfaitement la dernière question aussi, que notre délivrance, notre sagesse, tout se trouve en Jésus Christ. Et la dernière chose que j'ai partagée dans le groupe, j'ai beaucoup aimé ce temps, cette fois-ci, d'avoir un si bon groupe.
Un bien. Qui parle plus fort pour continuer?
C'est le point 2. On avait dit les arguments qui Ésaïe 29 sont tous valables pour excuser notre ignorance face à la révélation de Dieu. Et moi, ce qui m'aurait, on avait partagé dans le groupe, c'est que si ton regard s'est dit Dieu, car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assouplissement, il a fermé vos yeux, il a voilé vos têtes, le par des prophètes et des voyants. Puis on s'est posé la question parce qu'on ne comprenait pas très bien le sens de la question, mais je crois qu'on l'a compris, c'est que malgré ce Dieu prophète, est-ce que c'est pour toi une occasion de dire, ben je vous annonce de lire à la parole? Puis on l'a saisi en sens que non, on ne devrait pas, parce que c'est voilé ou c'est caché, parce qu'il dit ça a été caché pour vous. Et il dit toute la révélation est pour vous, comme les mots de livre cacheté. Ça, c'est la réponse, c'est la référence. Puis on s'est dit, mais si c'est caché, alors est-ce que c'est une raison pour moi de ne pas la lire? Et on avait dit, un exemple de l'aveugle, car c'est dit, même un aveugle, quelqu'un qui cherche sa pardon, ne trouvera. On a dit qu'un aveugle qui est avec son petit bâton, qui cherche sa porte, et quand il a trouvé sa porte, il est content d'avoir porté parce qu'il ne sait pas combien de temps. Puis, on avait donné ces deux points, c'est Paul. On faisait référence avec Colossiens, qui dit que en lui, son mystère caché. Et plus loin, il disait aussi que pour les païens, Colossiens C'était un point ça m'a beaucoup frappé. Parce que Paul, il y avait des mystères cachés dans l'Ancien Testament que les gens, les Juifs, ne veulent pas comprendre. Puis ce qui est arrivé, c'est que Paul, quand il a lu ce qui s'était l'Église, il a eu comme une révélation d'un mystère qui était déjà caché dans l'Ancien Testament. Et c'est un mystère qui s'est dit, je parlerai à mon peuple par un autre peuple. C'est de voir que, dans ce tombe-là, quand il dit, je parlerai à mon peuple par un autre peuple, c'est Paul, là, il s'aperçoit qu'en frappant les chrétiens, qui frappaient le corps, qui frappaient aussi la tête, il y a comme une révélation de ce mystère qui était caché dans l'Ancien Testament. Il y a cette révélation-là en lui. Et je me suis dit, ben, c'est seulement quand on est qu'on peut avoir cette révélation-là. Et je ne crois pas que c'est pour nous autres une occasion de dire, non, parce que je ne comprends pas la Bible, parce que c'est trop dur à lire, d'arrêter de lire. Et je crois que c'est aussi lui qui a décidé en quelque chose dans les gens. Et c'était un point qu'on avait parlé dans notre groupe.
Oui. Merci beaucoup. Vous voyez, ça vaut la peine de pouvoir partager. Ce que je voudrais souligner maintenant au sujet de toutes ces prophéties de l'Ancien Testament, nous avons lu dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, que bien souvent, les prophètes qui ont reçu une révélation, une parole, ne la comprenaient pas, ne savaient pas comment la chose se produirait. Et il est dit, je relis ce verset 10 du chapitre 1er de la première de Pierre, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservé, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches, de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances du Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc, les souffrances du Christ, maintenant, nous pouvons dire que les prophéties concernant les souffrances du Christ, Ésaïe 53, nous pouvons dire qu'elles se sont réalisées. Mais eux ne savaient pas encore comment les choses se passeraient. Et je voudrais vous citer un texte dans Matthieu, chapitre 1er, le fameux chapitre des engendras, comme disait la petite. Eh bien, il est dit que Joseph, quand il se préparait à répudier sa femme, Marie, parce qu'il ne pouvait pas comprendre ce qui se passait en elle, qu'elle était enceinte du Saint-Esprit, allait le dire ailleurs. Joseph avait les pieds sur la terre. Alors, une histoire pareille, qu'on est enceinte du Saint-Esprit, c'est un peu difficile à avaler. Mais quand même, il aimait Marie. Et il y avait un problème pour lui. Comment cela se fait-il? Et au fond, Marie, qu'est-ce qui aurait dû lui arriver? On devait la lapider ou la brûler. Et Joseph ne pouvait pas se résoudre à divulguer la chose. Mais quand on est enceinte, un jour, le corps prend la forme et on ne peut plus le cacher. Alors, verset 19, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Et comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu est venu du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est le témoignage d'un ange maintenant qui lui confirme que Marie n'a pas menti. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et alors il est dit, verset 22, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Maintenant, on sait que ce qui avait été annoncé par le prophète est arrivé. Il y a un moment où la prophétie est accomplie. Alors, on sait, n'est-ce pas? Voici, la Vierge sera enceinte et enfantera un fils. Mais historiquement, il y avait eu une histoire concernant une jeune fille qui devait être enceinte. Mais ça allait beaucoup plus loin. Ça s'est réalisé en partie dans Ésaïe, mais pas d'une Vierge. Mais ici, alors, c'est la Vierge. Non pas simplement la jeune fille. Voici, la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alors, toute la lumière se trouve manifestée sur cette prophétie d'Ésaïe, qui a eu un contexte historique, si vous lisez le chapitre 7 d'Ésaïe. Donc, il n'y avait pas seulement quelque chose qui devait se passer au temps d'Ésaïe, mais il y avait quelque chose qui allait se passer plus loin. C'est l'histoire des montagnes où l'on voit justement un sommet et on croit que ça y est, et il y a encore toute une vallée et vous trouvez le suprême sommet plus loin. Voilà comment la prophétie s'accomplit. Au moment où les choses se passent, par exemple 666, que vous cherchez qui est 666, c'est pas maintenant qu'on peut le dire. Mais ceux qui auront de l'intelligence, quand les choses arriveront, pourront comprendre qui est 666. Sans ça, si vous avez, avec votre imagination, ou essayé dans l'histoire passée, eh bien, ce n'est plus de l'actualité. Or, ce sont des choses qui doivent s'accomplir. Elles ne sont pas encore venues. Mais nous devons avoir cette connaissance de la parole, et alors, au moment, eh bien, ce n'est pas nous qui le verrons, mais d'autres le comprendront. Alors, je crois que c'était bien que nous ne compliquions pas les questions cette fois-ci, après tout l'effort que vous avez fait et les questions qui pouvaient vous paraître compliquées. C'était bien de finir dans la tranquillité. La première question, quel livre de l'Ancien Testament devrions-nous lire encore pour mieux comprendre le langage de l'Apocalypse? Oui, c'est pas simplement un, mais j'avais surtout à cœur un livre parce que c'est celui de Daniel. Hein. Mais je n'ai mis que le dernier chapitre, il aurait fallu pouvoir lire depuis le chapitre 7, 8, 9, 10, enfin même les chapitres 2 et 4, en dehors de l'histoire personnelle de Daniel. En ce temps-là, se lèvera Michaël. Qui est Michaël? C'est l'archange Michel, hein? Michaël, qui est le héros de Dieu, qui s'oppose, et son nom veut dire qui s'oppose à Dieu, c'est lui qui prend la défense de quel peuple en particulier? Le peuple juif. Vous trouvez ça dans le chapitre 10. Michaël, et il y a des anges qui sont nommés sur certaines villes, et Michel est l'archange. Et c'est lui qui a déjà combattu pour le corps de qui? De Moïse, n'est-ce pas? Donc, vous retournez aussi dans le Deutéronome pour y trouver Michel, mais le nom n'est pas donné dans le Deutéronome, il est donné dans l'épître de Jude, n'est-ce pas? Il n'a pas prononcer des propos injurieux contre Satan, mais il lui a dit que l'Éternel te réprime. Hein? Alors, ce Michel aussi, dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, vous le voyez à la tête de tous les anges, est qui combat contre qui? Contre Satan, qui est, avec tous les démons, chassé du ciel. Ça, c'est une chose qui vient. Le Seigneur en a eu la vision. Quand il dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair », je ne pense pas que c'est à ce moment-là que Satan est tombé du ciel. Mais il y a un moment, il a eu la vision qu'un jour, Satan, l'accusateur des frères, qui se tient devant Dieu jour et nuit pour nous accuser, eh bien, sera chassé du ciel. Il n'y aura plus de place pour Satan dans les lieux célestes, car maintenant encore, notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, nous dit Éphésiens 6, mais contre les puissances spirituelles de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. Donc Satan n'a pas été encore chassé des lieux célestes. Il y est encore. Mais voyez, vous ne pouvez jamais prendre un verset et en donner une interprétation particulière. C'est dans l'ensemble de l'Écriture que vous trouvez la vérité. Parce qu'en fait, si vous isolez le verset, vous lisez ça dans l'Évangile, vous dites, eh bien, Satan est déjà tombé du ciel. Et c'est ce qu'on nous dit. Il est déjà tombé. Ou bien, alors, il est déjà lié. Et vous voyez Satan lié? Il est déjà dans l'abîme. Non, il n'est pas dans l'abîme. Il le sera après. Alors, pour nous expliquer les ravages de Satan, on dit, oui, il est lié, mais sa chaîne est longue. Moi, ça me fait penser à un chien, n'est-ce pas, qu'on a mis à une chaîne, mais il y a une boucle à la chaîne, et puis il court, là, à travers tout l'espace pour empêcher les gens d'entrer. Non, Satan n'est pas lié. Et vous savez, c'est quand même... Il y en a qui nient l'existence de Satan, qui n'y croient pas. Et je me souviendrai toujours qu'après la guerre, j'avais lu dans les études carmélitaines, c'était un auteur catholique qui disait « Ceux qui nient l'existence de Satan n'ont rien compris à l'Écriture sainte. » Et il disait « Le diabolisme... » Il se remarque à deux choses, le mensonge et le meurtre. Et c'est vrai, ça. Et quand on a vu Hitler, par exemple, c'était le mensonge et le meurtre, n'est-ce pas? C'était satanique. C'était satanique. Et dire Satan n'existe pas. Non, Satan existe. Il n'est pas encore lié. Mais nous pouvons être vainqueurs de Satan. Il nous accuse devant Dieu. Et chaque fois que nous mentons, il y a une accusation qui est portée contre nous. Et c'est ça qui nous attriste. Nous sommes tout à coup attristés. Mais qu'est-ce que nous avons à faire? Confesser nos péchés. Et le sang de Christ est là pour nous purifier de tout péché. Quand quelqu'un confesse son péché, le Seigneur montre son sang au Père et la communion avec le Père est rétablie. Le Seigneur dit, j'ai payé pour lui. Et ça, c'est ça qui est merveilleux. Mais vous voyez, être sauvé, c'est quelque chose de quotidien. Notre salut, on est sauvé en espérance. Alors, c'est pas quelque chose qu'on met dans la poche. C'est ça que j'ai en horreur, qu'on vous donne un petit salut sur un bout de papier, vous avez signé la date et tout cela, et puis vous pensez, maintenant moi je suis sauvé. Comme si c'était une assurance contre l'enfer. Le salut n'est pas quelque chose, le salut c'est quelqu'un. Mes yeux ont vu ton salut. Et si mais on regarde l'enfant, mes yeux ont vu ton salut. Une lumière pour les nations est la gloire d'Israël. Le salut n'est pas quelque chose, pas une assurance contre l'enfer. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, juste avant ma conversion, on nous annonçait aussi l'évangile. Et puis, on nous disait que c'était un billet de chemin de fer. Il fallait avoir son billet pour le ciel. Mais le salut, c'est un billet pour le ciel. Première, deuxième, troisième classe. N'est-ce pas? Alors, petite wagon lit. Ben voilà, moi c'est ça, oui, j'ai un wagon lit pour le ciel. Je suis dans le bon compartiment. Ah non, 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 c'est pas un billet de chemin de fer. On marche quand on est sauvé. On n'est pas dans un wagon lit. On n'est pas sur des rails simplement. Et puis, il y en a d'autres qui nous disaient, eh, on nous avait appris même un petit cantique. Je vous l'ai déjà dit peut-être. J'ai mon passeport, je ne l'ai pas signé. Il est signé par le sang de l'agneau. Alors, ce sera un passeport pour le ciel. Hein. Alors, quand on arrivera là, on peut montrer son visa. C'est ça le salut. Le visa, vous avez obtenu le visa. Combien avez-vous payé, hein? C'est pas un passeport pour le ciel. C'est une personne qui nous habite, qui marche avec nous. Et puis si nous devons mourir, un jour il nous dit, eh bien, on a marché ensemble, maintenant passons à l'autre rive. C'est tellement beau, hein. Puis il nous prend avec lui, puis les portails éternels s'ouvrent, et le Seigneur entre avec l'âme qu'il a rachetée. Mais c'est une marche avec Jésus, et une marche quotidienne. Vous êtes sauvés par la foi, et pour la foi, pour vivre une vie de foi. Sans cesse renouvelé. Et c'est ainsi que vous avez la délivrance et que vous avez la paix. Et Jésus est là avec vous. Alors, dans ce livre de Daniel, il est parlé donc de ce Michael, de ce Michel, que vous retrouvez dans le chapitre 12 de l'Apocalypse. Satan est battu. Mais il vient s'installer sur la terre. Et ça sera un temps très court. Il est dit que ce sera un temps très court. Mais quand Satan sera sur la terre, alors il manifestera toute sa haine contre le peuple qui a donné naissance à qui? Au fils mâle. À l'enfant mâle qui est Jésus. Le dragon se tenait là déjà comme pour le dévorer, mais l'enfant a été ravi auprès du mais dans cet enfant mâle, c'est le Christ et l'Église. Et alors Satan sera sur la terre et il persécutera la postérité de qui? De la femme. Et cette postérité, ce sont les Juifs, puisque le salut vient des Juifs. Et je crois à une vocation distincte d'Israël. On peut ne pas être d'accord avec moi, ça m'est bien égal, mais je devrais déchirer des pages de la Bible pour dire qu'il n'y a plus d'espoir pour les Juifs et que les Juifs, le seul espoir, c'est de se convertir à l'Église. Non, il y a une vocation de l'Église qui est une vocation céleste. C'est un peuple céleste, et puis il y a une vocation d'Israël, qui est le peuple terrestre de Dieu, et Dieu n'a pas dit son dernier mot avec les Juifs. Ce qu'ils font maintenant, ce n'est pas toujours louable, mais le jour viendra où, après que l'Église aura été enlevée, eh bien, il y aura un réveil parmi ces hommes qui seront encore employés, des hommes nouveaux qui ne sont pas compromis dans les iniquités du christianisme pour annoncer encore à tous les peuples de la terre, mais au prix du martyr. Beaucoup seront martyrisés. Ce sera un temps de détresse dont parle justement ici Daniel et qui rejoint le temps de détresse de l'Apocalypse, cette heure de la condamnation qui doit venir sur la terre habitée tout entière. C'était déjà annoncé dans Daniel. En ce temps-là, célébra Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de qui? De ton peuple. Qui c'est le peuple de Daniel? C'est les Juifs, n'est-ce pas? Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Donc il y aura des sauvés. Hein. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Il y a donc deux résurrections, la résurrection des justes, la résurrection des méchants. Mais il y a aussi tout un réveil qui est là. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude
brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Et voyez-vous, est-ce que c'est vraiment cela que nous désirons, enseigner la justice à la multitude? Qu'est-ce que nous enseignons aux âmes? Qu'est-ce que c'est la justice de Dieu? Alors, qu'est-ce que c'est la justice de Dieu? Jésus, qui est notre justice. Donc, nous devons enseigner la justice, la sagesse, la sainteté, et quand nous enseignons ces choses, c'est une personne que nous présentons, car il est notre justice, notre sainteté, notre sanctification. Eh bien, ceux qui auront enseigné la justice brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Et je dirais que dans le chapitre 15 des Corinthiens, il est dit qu'une étoile diffère d'une autre étoile en gloire. Et l'intensité de l'éclat de l'étoile, c'est maintenant qu'elle se fixe pour l'éternité. Alors, qu'est-ce que nous recherchons? À briller dans ce monde? À ce qu'on parle de nous comme de vedettes? Non. Je ne peux pas être sur un trône, sur une terre qui a crucifié mon Seigneur. Je ne peux pas régner là où mon Sauveur a été crucifié. Je ne puis m'attendre qu'au mépris, à la honte et à la souffrance, si je suis vraiment disciple de Jésus. Il ne règne pas. Et vous savez, ce triomphalisme chrétien, il me fait peur. Car si on est fidèle, on souffre. Et si vous voulez être fidèle aujourd'hui et ne pas faire comme tout le monde, ne pas vous conformer au siècle, eh bien, vous souffrirez. Mais c'est dans le programme. Alors on l'accepte. Si on est disciple de Jésus, tu veux me suivre? Renonce à toi, prends ta croix et suis-moi. Le Seigneur ne nous a pas trompés. Et ceux qui voulaient le suivre, il leur a pas dit, oh, ça sera facile. Il n'a pas menti. Et si nous sommes fidèles, nous devons souffrir. Et c'est justement pour cela que j'ai besoin d'une puissance qui n'est pas dans ma chair. Parce que ma chair, comment est-ce qu'elle est? Qu'est-ce que Jésus a dit? Elle est faible. Jésus lui-même a dit, la chair est faible. L'esprit est prompt. On est tout de suite prêt à faire de grandes choses, hein. Puis ça tombe. Mais la chair est faible. Et si on est vrai devant Dieu, si on passe la minute de vérité maintenant, eh bien, on sait très bien que notre chair est faible et qu'elle est capable de tout. Et ce n'est pas les années de conversion qui peuvent nous garder. C'est notre relation actuelle avec le Seigneur. Et c'est le jugement constant de nous-mêmes, dans nos pensées, et qui nous libère. Ne laissons pas s'installer des pensées qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Parce qu'alors, nous connaîtrons la discipline du Seigneur. Eh bien, moi, Daniel, toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Et vous avez compris, n'est-ce pas? Ça ne devait pas s'accomplir immédiatement au temps de Daniel. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et c'est aussi une connaissance spirituelle. On comprendra mieux ces choses. Et moi, Daniel, je regardais et voici deux autres hommes se tenaient debout, dont l'un au-dessus du bord du fleuve, et l'autre au-delà du bord du fleuve. Enfin, vous avez lu tout cela. Alors, je passe plus loin, parce qu'on ne peut pas s'arrêter sur tout, mais vous avez lu donc dans ce livre de Daniel sur ces temps de détresse, qui correspondent au temps de détresse de l'Apocalypse. Mais Jérémie 30, puisque vous avez demandé quel passage est-ce qu'on pourrait lire encore, mais comme ça a été dit, c'est toute l'écriture, il n'y a pas même une sélection à faire. Jérémie 30, verset 5. Ainsi parle l'Éternel, nous entendons des cris d'effroi, c'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un mal enfante. Il y a tout dans la parole, même ce qu'on a pu lire dans les journaux. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point de semblable. Vous voyez que ça correspond. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. Les Juifs le savent très bien, qu'ils doivent passer par la grande tribulation. Ils vous le disent quand on est en Israël. Je me souviens toujours le père Jean Roger, un de mes amis, qui est maintenant auprès du Seigneur, qui me disait, ces théologiens à la gomme, il parlait de ces théologiens de sa propre église, qu'ils viennent un peu ici, et ils comprendront la Bible autrement. Et il les appelait des théologiens à la gomme, parce qu'ils enlevaient toute actualité à l'écriture, ils ne croyaient pas à l'inspiration des écritures, ils ne croyaient pas à la prophétie. On ne croit pas à la prophétie, alors on retarde ses écrits, la date de ses écrits pour dire, au fond, on raconte une histoire, on raconte l'histoire. J'entendais un théologien qui me disait que au sujet d'Ésaïe, c'est pas Ésaïe, c'est le second Ésaïe, etc. Et je lui dis, mais pourquoi tu dis ça? Alors il finit par avouer, ben c'est à cause de Cyrus. Parce qu'on ne peut pas croire que Dieu ait pu nommer un homme à l'avance, comme si Dieu ne savait pas tout. Mais on ne croit pas à l'inspiration des Écritures. Comme l'Apocalypse, ce serait Jean qui aurait mis ensemble tout ce qu'il trouvait dans l'Ancien Testament, dans les Écritures, pour nous servir ce livre. Donc je trouve alors que ça serait un génie. Si Jean a réussi ce coup-là, ben alors, ce serait un génie. Et l'ange devrait se prosterner devant lui. Changer les rôles. Mais c'est Dieu qui a donné cette vision, n'est-ce pas? Alors vous vous y retrouvez, parce que si vous commencez à lire tous ces bouquins, avoir tous les doutes possibles, eh bien la Bible vous l'achetez. Et puis alors, le monde vous prend. Puis c'est tellement plus facile de se satisfaire dans le monde qu'après on se suicide. Alors, vous voyez, vous pourriez lire tous ces passages, mais je ne vais pas allonger. C'est un ton semblable. Mais Israël sera délivré. Et je l'ai dit l'autre jour, j'ai entendu une fois Menahem Begin, alors que j'étais à Jérusalem et qu'il était président de la Knesset, dire « Le salut pour Israël ne peut venir ni de l'Amérique ni de la Russie, le salut viendra du Messie. Il viendra en Sion. » Et il y a tout un travail de Dieu qui se prépare aussi dans ce peuple. Et puis, il est parlé de cette délivrance. Mais nous devrions être versés dans les Écritures de plus en plus. Alors, les arguments d'Ésaïe 29 sont-ils valables pour excuser notre ignorance face à la révélation que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ, qui nous l'a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean? Non, vous l'avez dit, n'est-ce pas? Ce ne sont pas valables de dire je ne sais pas lire, mais si vous dites je ne sais pas lire, vous pouvez l'entendre. Hein. Bienheureux ceux qui lisent, mais aussi ceux qui écoutent. Si vous ne pouvez pas lire, vous pouvez l'entendre, et puis même ayant des gros caractères. Hein. On n'a plus d'excuses. Et je trouve que c'est merveilleux qu'on ait encore eu ce témoignage de notre fille. Alors, nous n'avons pas d'excuses, mais il est question d'un assoupissement spirituel hein, dans le 29. Vous avez bien vu, dans le 29 d'Ésaïe. Si on ne comprend pas, c'est qu'on est endormi. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Et le Christ t'éclairera. On est comme les vierges, elles se sont toutes endormies. Et il y a le cri de minuit, Jésus revient. Hein. Voici le tout, sortez à ça. Rencontre. Alors, ce cri réveille ceux qui ont quand même la vie. Mais autrement, on est couché comme des morts. Il n'y a pas de différence entre ceux qui dorment et ceux qui sont morts. Hein. Et tout d'un coup, il y a un cri. Et ceux qui ont vraiment la vie se lèvent. Ceux qui n'ont pas la vie, ils restent dans la mort. Et quand le 29 d'Ésaïe dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est forte, éloignée de moi. Voyez-vous, c'est une question de cœur. Et moi, je le comprends pour moi, mais les affections de nos cœurs, est-ce qu'ils sont dans le Seigneur? Quand les affections de nos cœurs sont dans le Seigneur, il y a des choses que nous ne ferons pas, non pas parce que nous nous mettons sous la loi, mais Seigneur, est-ce que tu ferais cela? Seigneur, est-ce que tu dirais cela? Et voyez-vous, on a toujours à être repris dans nos paroles, parce qu'il y a des paroles peut-être que le Seigneur n'aurait pas dit. Et puis lui disait, je ne juge pas. Alors, gardons-nous de toutes ces choses. Mais comprenons bien que si nous ne comprenons pas la parole, moi je dis au Seigneur, montre-moi s'il y a quelques voix de chagrin en moi, psaume 139, et conduis-moi dans la voie d'éternité. Alors, vous avez compris que cette révélation, c'est la prophétie, c'est le témoignage de Jésus quant à l'Église, le témoignage de Jésus quant à Israël, le témoignage de Jésus quant à ce monde, quant aux nations de ce monde. Est-ce qu'on peut le croire? Son témoignage à lui? Quand vous lisez la Bible, c'est quel témoignage? C'est le témoignage de Jésus. Alors, ça vous suffit. Et puis, quand on vous dit, mais qui a été votre maître? J'étais à l'école du Seigneur. N'est-ce pas? Mon maître, c'est le Seigneur et ses apôtres. Une église vraiment chrétienne, elle est universelle, elle est apostolique, c'est-à-dire, elle suit l'enseignement des apôtres que le Seigneur a lui-même choisi. C'est le témoignage de Jésus qui est la parole de Dieu. Alors avons-nous compris ce que nous devons rechercher dans la prophétie, des événements ou une personne? Je me crois que vous avez bien trouvé que c'est une personne. Alors cet après-midi, je dirai encore quelques mots sur le témoignage de Jésus pour clore et puis la rencontre se terminera donc par un culte d'adoration. Maintenant, il est question de la Sainte Cène. Ce n'est pas une secte, ce n'est pas une église qui vous invite, une église particulière. Nous sommes un groupe et le Seigneur nous dit à nos cœurs, faites ceci en mémoire de moi. C'est lui qui nous appelle. Évidemment, si vous faites partie de l'Église romaine, je dois vous le dire, non pas, c'est pas nous qui vous empêchons, mais selon la loi de l'Église romaine, vous n'avez pas le droit de participer à la table d'une communauté où celui qui officie n'a pas été consacré par les mains d'un évêque. Hein. Ça, c'est ce qu'on peut vous dire. Alors, je dois être assez loyal pour vous dire que moi, j'ai pas eu la consécration des mains d'un évêque. J'espère avoir eu la consécration des mains percées, ce qui est autre chose. N'est-ce pas? Parce que j'ai entendu quelqu'un qui devait être consacré. Vous savez ce qu'il disait? Ben, je suis consacré. ils mettront leurs mains vides sur ma tête vide.
Alors, il sera consacré.
Mais j'ai entendu, ils mettront leurs mains vides sur ma tête vide. Voilà ma consécration. Il faut autre chose. Il faut les mains du Seigneur. Mais je vous le dis pour qu'il n'y ait pas de trouble. Mais ce n'est pas nous qui vous repoussons. Et je dis, il n'y a pas de préalable quand le Seigneur dit, faites ceci en mémoire de moi. Pour moi, le culte d'adoration avec la table du Seigneur, c'est la plus grande réunion d'évangélisation. Vous ne répondez pas à l'appel du prédicateur, vous répondez à l'appel de Jésus. Et s'il y a des choses que vous devez mettre ensuite en ordre pour obéir au Seigneur, eh bien, le Seigneur vous les montrera et vous permettra de mettre tout cela en ordre. Mais ne vous privez pas de la bénédiction que le Seigneur veut vous donner. Et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, eh bien, sachez lui pardonner parce que le Seigneur vous a lui-même pardonné. Maintenant, encore juste un mot. Père, nous voulons te bénir et nous voulons dépendre de toi au sujet de ce que tu veux pour les mois qui viennent, si nous devons encore les passer sur la terre. Et si tu veux nous reprendre à toi, alors nous te disons toute notre joie de penser que bientôt nous serons auprès de toi. Et nous te louons et nous te bénissons de nous avoir déjà donné de goûter sur cette terre la joie du ciel, la paix du ciel, l'amour du ciel. Et que nous puissions en être les uns pour les autres comme une incarnation en attendant ton retour.